Oh, Mimi, oh, ça fait deux jours que je suis cloué au lit. J'ai besoin des nouvelles du monde. Allume la JT du local.
Ouais, t'en fais quand même un petit peu trop.
J'ai grandi à la campagne, autour de la maison, pas de voisins mais des champs. Les enjeux de ces fermes aux alentours, je ne les comprenais pas forcément très bien. Aujourd'hui, on le sait, partout en France, et la Mayenne n'y échappe pas bien sûr, la colère des agriculteurs se fait entendre. Mais quand on parle agriculture, il est bon de rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule agriculture possible et qu'il n'y a pas qu'un seul syndicat agricole. Mes invités d'aujourd'hui représentent la Confédération Paysanne qui, la semaine dernière, a annoncé elle aussi des revendications. Et aujourd'hui, ils nous en parlent. Donc avec moi aujourd'hui, Simon Ossems et Élise Boulanger. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue amis auditeurs dans la JT du local et bonjour à toi Lucie, tu seras à mes côtés comme toujours tout au long de cette émission. On te retrouve tout à l'heure pour l'actu en bref. Dans la suite de cette émission, on va à Saint-Berthevin à la rencontre de Gilles Bordier, le président de l'association Gélabrique, qui nous parlera de la première édition du salon hivernal du Lego à la Baconnière Fabrique Tabrique. Et bien sûr, l'agité du local ne se termine pas sans une chronique, et aujourd'hui c'est celle de l'UFC Que Choisir de la Mayenne avec Jean-Michel Guinaudot. Mais je le disais, avec nous aujourd'hui en studio, Simon Ossens et Élise Boulanger. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez donc la Confédération Paysanne. Vous êtes tous les deux agriculteurs. Et donc, vous êtes venus aujourd'hui pour nous parler des dernières revendications annoncées la semaine dernière. J'ai envie de vous poser une première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur le chemin de l'agriculture? Quelle valeur vous portez derrière tout ça? Élise, peut-être pour commencer.
Alors, je voulais juste rectifier, c'est Élise Bélanger.
Bélanger, pardon.
C'est pas grave, c'est pas une insulte, Boulanger, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui m'a séduit dans l'agriculture paysanne, c'est cette considération du partage des communs. C'est assez fondamental maintenant. Donc, ce que j'appelle les communs, c'est l'eau, la terre, l'air, enfin, ce dont tout le monde dépend. Ça me paraît tellement important de le reconsidérer, de le partager, de laisser l'accès à tous. Et c'est aussi de pouvoir laisser quelque chose de vivable derrière nous. Penser aux générations qui vont nous suivre. Ça me paraît indispensable.
Et vous, Simon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Je rejoins Élise sur ce qu'elle a dit. C'est aussi essayer de laisser quelque chose de vivant, vivable et vivant. On est très attachés. Moi aussi, je suis issu, comme Élise, du milieu agricole, et on est très attachés au terroir dans lequel on s'installe, au sol, à nos animaux, et en fait, c'est
à nos voisins.
Ouais, voilà. C'est l'amour d'un métier qu'on veut diversifier, qu'on voudrait être plus nombreux pour qu'on puisse continuer à s'entraider, continuer à partager du matériel. Et en fait, on voudrait bien gagner notre vie. Sans avoir à bosser 80 heures par semaine.
Justement, les revendications que l'on entend beaucoup aujourd'hui concernent donc le milieu agricole. Il y a celle de la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Je vous propose de commencer avec le point sur lequel les deux syndicats, donc la Confédération Paysanne, pardon, rejoint également la FNSEA, c'est la question de la rémunération et de la reconnaissance des agriculteurs.
Oui. Bah, du coup, oui, on diverge sur pas mal de choses, mais là, dans ce mouvement actuellement, on est d'accord sur le fait qu'il y a un problème de revenus dans l'agriculture. Donc, notre proposition à la Confédération Paysanne, c'est d'appliquer la loi Egalim à la lettre. Et donc, on demande plus de contrôles, plus de moyens pour faire des contrôles. Et on aimerait bien qu'ils se mettent en place des pratiques de dénonciation, de mauvaise publicité pour les enseignes, et notamment pas que les enseignes de grande distribution, mais aussi les agro-industriels qui n'appliquent pas la loi Egalim.
Quelques mots peut-être pour nous réexpliquer la loi Egalim.
Alors, la loi Egalim, donc, y a certains axes qui interdisent, par exemple, d'acheter des produits en dessous du prix de revient aux agriculteurs. Et ça, c'est vraiment la base qu'on voudrait respecter. Pour nous, c'est le point le plus important par rapport à la loi Egalim. Ensuite, on rejoint aussi les revendications d'autres syndicats sur le libre-échange. Donc, ça fait longtemps que la Confédération paysanne demande l'arrêt total du libre-échange. Du libre-échange, pas seulement le Mercosur, mais aussi le Mercosur, il est remis en question entre guillemets par la France, mais entre-temps, l'Europe a signé un contrat avec la Nouvelle-Zélande. Il y a des contrats avec l'Amérique du Nord, il y a des contrats avec d'autres parties du monde. Et
même au sein de l'Europe, il y a une concurrence déloyale finalement avec.
En fait, je vais peut-être dire un gros mot pour les gens qui pensent que protectionnisme, ça veut dire qu'on est communiste, mais en fait, peut-être que justement l'agriculture devrait être le premier milieu, si ce n'est, enfin, j'espère pas le seul, mais en tout cas, c'est le premier milieu où on devrait appliquer du protectionnisme sur nos frontières. Ce qu'on peut produire et consommer en France, on devrait pouvoir le consommer et le vendre en France. Ça garantirait des revenus décents plus facilement. Et en même temps, ça rejoint aussi les problématiques de réchauffement climatique, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc moins les denrées alimentaires feront de trajets longs entre l'endroit où elles sont produites et l'endroit où elles sont consommées. Et moins on va dépenser d'énergie pour les transporter.
Oui, parce que concrètement, aujourd'hui, les produits agricoles, par exemple, importés d'Amérique du Sud et même de certains pays européens, coûtent moins cher que ceux qui ne font pas des kilomètres et des kilomètres pour arriver dans nos assiettes.
Et là, on en revient à la question des normes. Et nous, à la Conf, on n'est pas contre les normes. On pense qu'on se trompe de combat en disant que ce sont les normes qui nous écrasent et qui nous empêchent de bien vivre. On pense plutôt que c'est la cohérence des systèmes et les choix qui sont faits par les agriculteurs et aussi les incitations qui sont faites, l'éducation à l'agriculture. Tout ça, ça fait partie du problème qui empêche les agriculteurs de voir qu'en fait, des normes, ça nous aide à garantir qu'on produit des produits de qualité. Et bien sûr, on voudrait une simplification, on veut que ce soit le plus simple possible. Donc s'il y a des simplifications possibles, on veut que ce soit la plus simple. On veut aussi que les normes, elles soient...
Les normes sont faites et ont été mises en place pour l'agriculture industrielle, productiviste, j'ai envie de dire même capitaliste. Nous, on défend une agriculture à taille humaine, cohérente. Et là, les normes, elles sont, pour ainsi dire, pas nécessaires. À partir du moment où on travaille dans le sens de la nature, dans le sens du vivant, les équilibres se refont. Là où il y a une règle simple de la nature, c'est l'animal nourrit le végétal et vice-versa. Et on voit bien qu'en France, il y a des secteurs où il n'y a plus d'animaux. Et à contrario, en Bretagne, pour prendre un exemple, il y a trop de porcs. Et on voit bien que les conséquences... elle se retrouve sur les nappes phréatiques, la qualité de l'air, de l'eau, etc., des sols. Et donc, il faut des normes, puisque on n'arrive pas à avoir une agriculture
vertueuse,
et j'ai envie de dire de bon sens paysan. On a perdu ça.
Ces normes permettent justement le soin à l'environnement. C'est quand même des enjeux actuellement que...
Pour les paysans et pour la population, quoi. Ouais.
C'est ça.
Ça touche vraiment tout le monde. Tout le monde a besoin de boire, de manger, de respirer.
Et en fait, ça va plus loin que l'alimentation. Si on a une agriculture vertueuse, on peut aussi diminuer le coût de dépollution de l'eau ou d'autres communs qui aujourd'hui sont des dépenses monstrueuses pour la société civile. Donc si à la base on respecte ces normes qui nous empêchent pas, enfin nous impactent pas tant que ça quand on fait de l'agriculture paysanne, parce que on essaye de travailler avec la nature, mais c'est pour ça on remet la cohérence des systèmes. On pense que c'est plutôt quand on s'installe, quand on est jeune agriculteur et qu'on s'installe et qu'on reprend des fermes à plusieurs centaines, voire des fois de milliers d'euros, voire des fois le million d'euros, quand on est jeune, qu'on n'a pas des capacités d'investissement qui sont énormes, on emprunte, on s'installe avec ses parents ou avec des associés qui ont des comptes associés négatifs. Donc les comptes associés, c'est des comptes internes à l'entreprise qui gonflent si jamais on ne se paye pas le salaire qui est écrit dans les statuts de l'entreprise. Donc si jamais l'entreprise n'a pas les moyens de payer ou on décide qu'on n'a pas vraiment besoin du salaire qui est décrit dans les statuts, on ne le prélève pas de l'entreprise. Les comptes associés gonflent, mais au moment où les associés vont partir, il faudra rembourser ces comptes associés. Et donc, non seulement on fait aujourd'hui des investissements qui s'approchent du million d'euros, mais en plus, le jeune qui s'installe, il va devoir reprendre les comptes associés de ses associés qui partent souvent dans les 10 ans après lesquels il s'installe, voire même 5 ans. Et ça amène des annuités, donc on doit emprunter des sommes monstrueuses qui amènent des annuités énormes. Et c'est ça la vraie pression aujourd'hui, c'est que les fermes sont trop grosses et on a transformé des fermes qui étaient reprenables, qui étaient facilement reprenables il y a 50 ans, qui étaient moins dépendantes au pétrole, qui étaient moins spécialisées. On les a transformées en énormes structures spécialisées dépendantes au pétrole parce que les animaux en ce qui concerne l'élevage ne sortent plus. En ce qui concerne les cultures maintenant, c'est des fermes en général, on est soit céréalier soit éleveur et du coup on n'a plus de revenus complémentaires. Si jamais on a un des ateliers de la ferme qui ne va pas bien, eh ben, on est tributaire de l'économie d'un seul secteur de l'agriculture.
Cette dépendance que vous évoquez concerne principalement justement les grosses exploitations, un certain modèle d'agriculture plus intensif. Quand on revient sur une ferme à échelle plus humaine, plus ce que vous défendez.
Sans parler d'intensivité, je pense que aujourd'hui depuis plusieurs décennies, le syndicat le plus représenté, donc la FNSEA, et j'insiste sur le fait que c'est le syndicat le plus représenté et non majoritaire, comme on entend souvent. Aujourd'hui, ce syndicat n'est plus majoritaire. Donc le syndicat le plus représenté met en avant le fait qu'on a besoin d'investir, on a besoin d'agrandir les ateliers pour faire des économies d'échelle sur les coûts de production, etc. Et ça fait 20 ans qu'on nous rabâche la même chose, si ce n'est plus, ça fait peut-être 30 ans, et aujourd'hui, c'est pas les premières fois qu'il y a des revendications des agriculteurs et ça ne change absolument rien.
Donc la FNSEA défend, excuse-moi Simon, je te coupe, une agriculture qui sert la finance, pas les paysans.
Qui sert l'exportation.
Bah, voilà. L'exportation sert la finance.
Voilà. Et du coup, nous on remet en cause ça. On n'a pas besoin d'avoir des grosses fermes pour vivre. C'est pas vrai. On a besoin d'avoir des fermes qui sont.
Ça nous a servi d'ailleurs. Une ferme trop grosse, ça nous sert pas. Ça nous a servi. On est acculé quand on a trop de dettes et quand on a une petite production qui est là, on n'a pas le choix que de continuer et on ne peut plus relever la tête.
Aujourd'hui donc la Confédération Paysanne ne rejette pas ces normes, vous soutenez justement tout ce qui va en faveur de la protection de l'environnement, vous vous rejoignez par contre.
Je fais une différence entre normes et lourdeur administrative. Enfin,
bien sûr, effectivement c'est quelque chose.
La dématérialisation d'administratif, c'est terrible.
D'accord.
Excusez-moi.
Non, je vous en prie. Et donc, ce que vous revendiquez aujourd'hui, vous parliez donc des accords libre-échange, une reconnaissance et une meilleure rémunération des agriculteurs. Et vous proposez de vous inspirer de la loi espagnole sur les chaînes alimentaires. Elle inclut justement un modèle qui promeut une qualité de la production, vous en parliez tout à l'heure, une qualité de la chaîne alimentaire pour une question de santé publique. Vous, dans vos valeurs, c'est essentiel, la qualité du produit final.
Ouais, c'est en fait si aujourd'hui on entend des messages pour diminuer les normes, c'est principalement pour pouvoir exporter plus facilement. On va exporter dans des pays où les moyens d'achat le niveau de vie des gens est plus faible, donc on va devoir casser nos prix pour pouvoir vendre là-bas. Donc c'est un peu une aberration quand on sait que la France c'est l'un des plus grands marchés internes à l'Europe et qu'on a un niveau de vie qui est quand même parmi les meilleurs de l'OCDE. Donc arrêtons d'être hypocrites en disant qu'on est souverain au niveau alimentaire. C'est pas vrai, on n'a pas une vraie souveraineté alimentaire aujourd'hui. En termes de calories, oui, mais en termes de produits qu'on mange, non. On importe énormément de fruits et légumes d'Espagne notamment, donc en parlant de marché interne à l'Europe. On importe beaucoup de choses qui viennent de l'autre bout du monde. Nous, on produit du blé en France qu'on vend aux États-Unis, on achète du blé au Canada. C'est une aberration totale en termes de logistique, en termes d'environnement, en termes de dépenses carbone. Donc, remettons des normes. Il y a sûrement assez de normes. Essayons peut-être de simplifier les démarches, de simplifier certaines normes, de mettre les normes en accord avec l'agronomie, ce qui n'est pas toujours le cas, on est d'accord. Donc essayons de réfléchir à des normes qui sont plus en accord avec l'agronomie, plus en accord avec l'économie des fermes et avec la réalité. Mais on ne souhaite pas produire des produits de moins bonne qualité, parce que c'est un peu ça qu'on fait pour l'exportation. On veut produire de moins bonne qualité pour vendre plus facilement. Nous, on souhaite vendre nos produits localement. La France n'a pas vocation à nourrir le monde. On sait bien que l'exportation de produits alimentaires, notamment dans des zones comme l'Afrique, ça détruit les économies agricoles locales. L'Afrique, on a l'image de l'Afrique avec des famines régulières, mais en fait, c'est pas vrai. L'Afrique, il y a eu des famines, mais l'Afrique, c'est un continent où il y a des ressources. Ils ont des endroits où il y a de l'eau, il y a du soleil, et ils arrivent à produire.
Ils n'ont pas besoin de nous pour produire leur nourriture.
Bien sûr. Et donc, occupons-nous voilà, de nous nourrir voisins. Nous-mêmes, d'avoir une vraie souveraineté. On a vu que la souveraineté alimentaire, mais aussi sur d'autres domaines, avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, ça a été une question qui a été mise en avant dans les médias. Donc ayons une vraie souveraineté. Et les normes sont là pour faire de la qualité, pour garantir qu'on produise de la qualité. Donc utilisons les outils qui sont entre nos mains pour garantir la qualité, pour garantir la santé publique, pour faire des économies. Quand on met en lien une alimentation de qualité et la diminution des dépenses publiques, de l'eau, une qualité de l'eau meilleure, donc moins de dépenses de dépollution, des sols qui sont plus productifs, plus de biodiversité, plus de biomasse, plus de stockage de carbone par la plantation de haies, etc. Ça, c'est ce que résume finalement l'agriculture paysanne. Et nous, on demande un changement de système, on demande... une réflexion profonde sur le fait qu'aujourd'hui, l'enseignement agricole, il est plus ou moins décidé par la FNSEA, qui a, la FNSEA aujourd'hui décide de qui est le ministre de l'Agriculture et puis décide de la politique du ministère de l'Agriculture. Je pense que c'est un des seuls domaines où le syndicat a tant de pouvoir.
Comme ça.
La CGT n'a pas un ministre dans sa poche, et c'est pareil pour les enseignants, on voit bien aujourd'hui. Donc, remettons en cause ce système pour que l'agriculture soit au service du bien commun, mais du bien commun d'abord. Pour nous, on aime les autres pays, mais on pense que chaque pays sera plus heureux en étant autosuffisant et souverain au niveau alimentaire plutôt que d'importer et d'être dépendant de partenaires commerciaux qui peuvent nous lâcher au dernier moment. On le voit bien avec les États-Unis aujourd'hui. Ils ont poussé pour un boycott du gaz russe. Donc l'Europe s'est tournée vers eux aujourd'hui pour acheter du gaz. Et Biden, le président des États-Unis, dernièrement, il a annoncé qu'on allait interdire la construction de nouveaux terminiers gaziers pour exporter vers l'Europe. En termes d'environnement, c'est génial. Mais en termes de géopolitique, ça pose question sur la fiabilité des alliés et sur la logique de... sur notre dépendance à plein de produits. Et
l'autonomie est une des valeurs essentielles pour la Confédération paysanne. Vous avez rencontré les citoyens devant le Leclerc de Saint-Berthevin samedi dernier. Pour vous, c'est essentiel de sensibiliser les gens, même qui ne sont pas du milieu agricole, puisqu'en fait, toutes vos revendications concernent tout le monde. On a pu le comprendre dans ce que vous nous avez dit aujourd'hui. On peut éventuellement suivre les prochaines actualités de la Confédération paysanne et tout ce que vous revendiquez, tout ce que vous souhaitez mettre à la lumière du jour, si on peut dire, sur votre site internet.
Oui, et en fait, nous on se rattache beaucoup à ce que fait la Conf nationale, ce que propose la Conf nationale. Nos communiqués de presse régionaux et départementaux, ils découlent souvent, c'est des simplifications ou il y a quelques mises en contexte qui permettent de les rendre plus locaux. Mais on sait que la Confédération paysanne depuis des années a le soutien d'une grande partie de la société civile et aussi de la science en termes de biodiversité, en termes d'autosuffisance alimentaire. Il y a quand même beaucoup de scientifiques et de chercheurs qui sont d'accord avec nous. Et donc du coup, on veut pas se mettre en opposition avec la population. On cherche pas à bloquer, nous, à la Conf. Il y a certains départements qui rejoignent les blocages. Ici, c'est pas forcément...
On a besoin que les gens comprennent pourquoi on se rallie pas à la FNSEA, pourquoi c'est important pour nous comme pour eux, qu'on change les modèles de production.
Ouais, et, bon, et la...
Enfin, il y a quand même du diabète, du cholestérol, du... Enfin, l'agriculture industrielle productiviste, ouais. On voit bien que ça marche pas sur le terrain, quoi.
Et puis, il y a des... Maintenant, il y a quand même de plus en plus de maladies professionnelles de l'agriculture qu'on sait totalement en lien avec les pesticides. Il y a beaucoup de cancers de la peau, notamment. Et donc, ne faisons pas l'autruche et... Arrêtons de demander la réautorisation des néonicotinoïdes. Ça ne sert pas les paysans, ça ne sert pas les agriculteurs, ça sert l'agro-industrie. Parce qu'on ne gagne pas plus d'argent en demandant l'autorisation d'un pesticide. On va juste ruiner sa santé, c'est tout.
Et en fait, si nos produits sont rémunérés à leur juste valeur... le volume va baisser, on va tomber dans une agriculture de qualité. Et donc, les choses vont s'équilibrer. On n'aura plus besoin de toutes ces normes, on n'aura plus besoin de... Ça va se rééquilibrer, mais ça ne sert pas tout le monde, quoi. Il y a une poignée de gens qui...
Nous invitons donc nos auditeurs à venir à votre rencontre pour les prochaines mobilisations, parce que la Confédération Paysanne vous annonçait que vous n'allez pas vous arrêter là. On annoncera évidemment dans notre émission les prochains rendez-vous que vous donnez aux concitoyens. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé de vos revendications et expliqué, en fin de compte, tout ce système à remettre en question. Merci.
Merci de nous avoir invités et de nous avoir écoutés.
Avec plaisir, je vous propose une petite pause musicale. On écoute Un monde meilleur de Hervé.
Je me défile d'actualité. Ça fait bien longtemps que j'oublie tous mes rêves. Je perdrai ma vie à la gagne. J'ai pas tué l'espoir qui brûle à l'intérieur.
Et c'est parti pour les actualités. En bref, je vais essayer d'être efficace aujourd'hui, chers auditeurs, parce qu'il se passe plein de choses en ce moment. Pour commencer, parmi les nombreuses revendications qui sont en cours, les syndicats appellent les personnels de l'éducation nationale de la Mayenne à une grève ce jeudi 1er février, accompagnée d'une manifestation à 10h30 devant le parvis des droits de l'homme à Laval. En cause, pour rappel, les salaires, les conditions de travail, les suppressions de postes et les fermetures des classes. Bref, les raisons sont nombreuses. Autre chose qui provoque d'ores et déjà du mécontentement, c'est l'augmentation des tarifs des autoroutes. En fait, il est question de faire augmenter ce tarif de 2,7% en moyenne. 26 autoroutes dans les colonnes du Ouest-France parlent de hausse limitée. Plus loin dans son article, Ouest-France explique que ces augmentations annuelles seraient indexées sur l'inflation et toujours soumises à l'accord de l'État. Après avoir expliqué la répartition du budget, le journal Le Ouest-France termine par annoncer qu'en 2024, l'État va instaurer, je cite, « une nouvelle taxe sur les concessions autoroutières pour financer les bornes électriques, le leasing social et les investissements de nouveaux trains ». Fin de citation. On reste sur les sujets qui fâchent. À Laval, l'unité accueillant des personnes souffrant de maladies neurodégénératives à l'hôpital de Laval, donc, vient de fermer faute de médecins. Le directeur de l'hôpital espère que cette situation est provisoire. À noter qu'une partie des personnels hospitaliers n'aurait été informée qu'en dernière minute par le biais de la presse. On reste à Laval, mais on essaye de se fâcher un peu moins. Jeudi 8 février, l'auteur Gérard Bodinier viendra parler de son roman « Debout, secoué par des vents contraires », qui se veut un minimum engagé. Pour animer la soirée et les débats, il sera en compagnie de Swazik Manak Chauvel, qui sera là en tant que conférencière, et d'autres acteurs, comme les compagnons d'Emmaüs par exemple. Pour celles et ceux que ça intéresse, rendez-vous jeudi 8 février à 20h au Petit Théâtre rue Jean Massé à Laval. L'entrée est libre, et au chapeau. Allez, on passe au sport. Ça y est, la toute première édition du Festival du journalisme sportif a débuté aujourd'hui à Laval. Et s'il y a des envies de dernière minute parmi vous, chers auditeuristes, vous pouvez retrouver tout le programme et effectuer des réservations sur le site www.festivaljs.fr, JS en majuscule. Pour ceux qui préfèrent le pratiquer, un trail urbain est organisé à Château-Gontier par l'association de coureurs 7 d'honneur. Ce sera le troisième trail urbain proposé par l'association qui vient en aide à des enfants malades. Et cette fois-ci, il se tiendra le lundi 1er avril à Château-Gontier. Pour celles et ceux qui ont besoin de se défouler, les inscriptions sont ouvertes sur leur site 7 d'honneur, 7 le chiffre 7, dhoneur.fr. Côté météo, cet après-midi, les éclaircies sont partout sur le territoire avec des températures entre 10 et 13 degrés. Ça y est, chers auditeurs, on a eu du soleil plusieurs jours de suite. Bon, en fait, ça ne va pas durer. Dès ce soir, il fera à nouveau très nuageux, voire brumeux dans l'est du département comme à Loiron par exemple, avec des températures entre 8 et 9 degrés. La brume va s'étaler sur tout le département pendant la nuit et se transformer demain matin en nuages dans le sud du département ou en pluie éparse à Goron et Pré-en-Paille par exemple. L'après-midi rebelote, de la brume partout et 11-12 degrés. Inès, elle va devoir convaincre son copain Duncan d'attendre avant de sortir son kilt parce que bon, pour demain soir, le repas de famille, ça risque de pas trop passer. En plus, pendant la soirée, la brume va se lever pour laisser apparaître quelques rayons de soleil malgré les températures entre 5 et 8 degrés. Puis la nuit, on retourne aux bancs de brouillard partout sur le département avec des températures entre 3 et 5 degrés. Bon bah Duncan, on a beau dire que le kilt, ça tient chaud, il va devoir patienter encore un peu.
Allez, maintenant, on ajoute notre brique à l'édifice et pour ça, on va à Saint-Berthevin à la rencontre de Gilles Bordier, le président de l'association J'ai la brique qui organise la première édition hivernale du Salon du Lego à la Baconnière. Le Lego, on connaît tous, ce que l'on ne sait pas forcément, c'est le lien et la rencontre qu'il permet. Écoutez.
Gilles Bordier, je suis le président de l'association J'ai la brique, donc qui gère les Lego en fait en Mayenne. L'association a été montée en 2011. Notre plus grand événement en fait, c'est le salon Lego qui a lieu fin août sur Saint-Berthevin. On a 1500 m² d'expo et cette année, on aura le 10e anniversaire en 2024 de l'association où ça fera 10 ans qu'on fait du 100% Lego. Mais je voulais monter un musée au départ, pour moi déjà mettre mes Legos, les présenter au public, le peu que j'avais, parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus, mais de créer ce musée pour donner du travail en fait et de centraliser la Mayenne, étant donné qu'on est un département qui est proche de tout et qui est loin de rien, dans le sens où on peut être proche de Paris, de Nantes, d'Angers, de la Bretagne, et c'était de proposer quelque chose en fait aux gens, donc aux écoles, aux associations. Nous, on a abouti en fait plutôt avec la ville de Saint-Berthevin à un projet de salon. Là où je suis, je ne vais pas dire fier, mais en fin de compte, c'est qu'on travaille avec différents handicaps. L'handicap, en fait, c'est d'une richesse terrible. On est tous un petit peu handicapés à notre niveau, quoi. Et c'est extraordinaire les rencontres qu'on peut avoir, le talent que les gens vont avoir. On va être simplement une vitrine de ce que la personne en face ou le projet va avoir envie de faire. Donc on a collaboré avec Oxy Bleu l'année dernière. On avait ouvert le salon en fait au public autiste un peu plus tôt et c'était extraordinaire parce que ce public-là est venu donc dans le calme, mais il restait une partie du salon à participer aux animations en fin de compte, et on se rend compte que c'est extraordinaire en fait puisque ils ont un talent énorme de création, c'est-à-dire qu'ils vont vous créer des choses, c'est absolument magique. Ce qu'on va proposer en fin de compte, c'est également ce que le partenaire apportera, notamment en fait là on est sur un projet avec le Pays de Cran où il y a 9 centres aérés qui se sont fédérés autour d'un projet qui a démarré le 8 janvier et qui finalisera en fin de compte le 21 février sur toute une journée en fait sur Cran autour du Lego. Et il y a peut-être 100 ou 200 gamins qui vont être sollicités, quoi. Moi, j'avais lancé l'idée plus ou moins et eux ont matché en fait. L'idée de l'association, c'est vraiment que les gens viennent nous voir. On a ce projet, on peut faire ça, comment on peut faire les choses. Donc c'est un échange avec les idées et on est tous créateurs à ce niveau-là. C'est-à-dire que n'importe quelle personne de lambda de la population, en fin de compte, peut avoir une idée de génie. Et nous, on peut être soutien de ça, quoi. Donc c'est illimité, quoi. On peut travailler avec des entreprises parce qu'il y a un côté en fin de compte participatif sur un projet pour les salariés, par exemple. Ça peut être sur un projet fédérateur en fin de compte, notamment comme le Pays de Cran. On a également un projet qui va aux vacances de février qui se fait avec 3 centres aérés, Saint-Berthevin, Luisserie et Changé. Suite un petit peu au développement de notre asso, on a souhaité en fait proposer un salon hivernal. Le comité des fêtes de la Baconnière était intéressé de partager avec nous. Donc le 3 et le 4 février prochain, on aura un événement qui s'appelle Fabrique ta brique et qui aura lieu en fait à la Baconnière. On a 1000 m² d'expo nationale avec des gens qui viennent un peu partout de la France, avec de la vente, une partie expo, une partie animation avec différents partenaires. Un salon Lego, en fait, on se constate que ça commence dans la poussette et que ça se finit généralement. Les gens sont à la retraite. Il n'y a pas forcément d'âge. C'est vraiment un projet familial. Les anecdotes font que quelquefois, les gens viennent accompagner les enfants le samedi et puis ils s'ennuient un petit peu. Ils sont là, ouais, qu'est-ce qu'on vient faire là? Et on les retrouve le dimanche et c'est eux qui sont revenus, quoi. Donc, on a vraiment... On crée un parc d'attractions éphémère sur un week-end. Familial ou de collectionneur, enfin voilà, tous les profils se retrouvent, quoi.
Vous donnez donc rendez-vous le 3 et 4 février à la salle multisport de la Baconnière pour le salon Fabrique ta brique. Au programme, exposition d'univers Lego, tombola, restauration, des animations pour tous, notamment une fresque Lego, une construction d'un monument local qui se fera sur les 2 jours. On peut également vous suivre sur les réseaux sociaux ou sur votre site internet en tapant « J'ai la brique », l'occasion de découvrir toutes les créations qui ont pu être réalisées jusque-là. Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Et vous avez bien raison, on aime beaucoup vous avoir avec nous. Alors mercredi dernier, nous avions Soizic avec nous pour la chronique Un autre écho de l'écho. Cette semaine, c'est Jean-Michel Guinaudot pour l'UFC Que Choisir.
La chronique du UFC Que Choisir, 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, votre dernière chronique portait sur le choix de sa banque. Quelles précautions faut-il prendre dans l'usage des services qu'elle offre ?
Bien, dès que l'on perçoit ou dépense de l'argent, l'ouverture d'un compte bancaire est un passage obligatoire. Ce service permet de déposer son argent, d'en recevoir comme le montant de son salaire ou de sa retraite, et de le retirer, soit en liquide, dans les distributeurs, soit en faisant des virements. les banques offrent systématiquement la possibilité d'avoir des chèques pour payer les achats. La banque doit avoir la possibilité d'avoir une vue sur les mouvements d'argent qui ont lieu sur ce compte. Vous pouvez demander un relevé mensuel papier. La banque ne peut vous le refuser. Et il est gratuit. N'hésitez pas à le demander. Ces services sont le plus souvent gratuits, mais de plus en plus de banques font payer un abonnement, sauf si vous laissez en permanence de grosses sommes sur votre compte. Il est possible d'avoir plusieurs comptes dans la même banque et un compte dans plusieurs banques. Le changement de banque est une opération réglementée que les banques ne peuvent vous refuser et qu'elles doivent faire selon des règles strictes.
On a vu que les banques proposent de nombreux services. Est-ce que vous pouvez nous préciser les précautions à prendre ?
Un autre service est systématiquement proposé, l'utilisation d'une carte bancaire payante. Nous y reviendrons lors de notre prochaine chronique. Lorsque vous ouvrez un compte, le conseiller vous propose systématiquement, car il est payé pour ça, un pack de services, comme des assurances en cas de vol de vos papiers, de votre argent liquide, des aides en cas de problèmes divers, et pendant qu'il y est, une assurance maison, une assurance dépannage, etc. Commencez par vous poser la question, combien de fois me suis-je fait voler mes papiers ? Le coût de ces packs sont proposés au mois, ce qui donne l'impression d'être peu cher. Il faut les refuser, car ils ne servent à rien. Autre proposition à risque, celle d'une autorisation de découvert élevée. Ce découvert n'est pas gratuit et son taux d'intérêt est proche du taux d'usure, aujourd'hui près de 20%. De plus, il permettrait à un arnaqueur de vous voler l'argent que vous n'avez pas.
Et alors, est-ce que la banque peut refuser d'ouvrir un compte bancaire ?
Eh oui, les banques peuvent choisir leurs clients. Elles peuvent même résilier votre compte, avec, bien entendu quand même, un certain délai de préavis. Mais elles n'ont pas d'explication à donner. Si la personne ne trouve pas de banque acceptant d'ouvrir un compte à son nom, elle doit en faire part à la Banque de France, qui désignera d'office un établissement bancaire. C'est ce qu'on appelle le droit au compte. Mais cette banque ne délivrera que le service minimum, sans carnet de chèque et avec une carte à débit immédiat et éventuellement autorisation préalable.
Que fait la banque de l'argent qu'on lui confie ?
La raison même d'une banque, c'est de faire travailler l'argent. Elle va prêter cet argent à des personnes qui en ont besoin, et ce, contre une rémunération, c'est-à-dire un taux d'intérêt, qui dépend du risque que la banque de ne pas retrouver son argent. C'est pourquoi les taux d'intérêt des prêts à la consommation sont plus élevés que ceux des prêts immobiliers qui sont garantis par la maison ou l'appartement, et que les découverts bancaires sont très élevés, car, comme on l'a vu, le risque est très élevé pour la banque. C'est aussi le cas pour le crédit renouvelable.
Merci Jean-Michel Guinaudot. On attend avec impatience votre prochaine chronique sur les cartes bancaires. Si l'on souhaite une aide pour un litige avec une banque ou un autre professionnel, pouvez-vous rappeler les coordonnées de votre association pour que les auditeurs puissent vous joindre ?
L'UFC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufcquechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne ou Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel ou nous proposer vos services. Pour animer des réunions d'information sur ces sujets de consommation, nous recherchons des bénévoles pouvant y consacrer quelques jours par an. À bientôt.
Merci Jean-Michel. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Simon Ossams et à Élise Bélanger d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Jean-Michel Guinaudot, notre chroniqueur du jour. Et à toi, Lucie. Merci également à Paul et Paul, deux stagiaires en public dans notre studio. On le sait, le mercredi, c'est une belle programmation, Lucie.
Et oui, la soirée sera très musicale, en commençant avec Novorama, avec une programmation indie rock, pop, électro et uniquement des groupes émergents.
Ensuite, à 20h,
on écoutera The Voice of Cassandre pour des mixtapes et playlists de différents artistes.
Et à 21h, bien sûr, c'est d'Eclectic Jazz.
Et l'invité du jour sera Yoon Sun-na, parce que oui, le jazz est bien présent aussi au sud de la Corée.
Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle Agitée du local à 12h15 et 18h15. On sera en compagnie de René Martin, qui est le créateur et directeur artistique depuis 1995 maintenant, de La Folle Journée de Nantes. Elle existe aussi en région. Cette année, elle a changé de nom régionalement pour devenir Ma Région Virtuose. Et oui, cette semaine, Lucie nous fait découvrir, nous fait un très joli retour sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Bien sûr, d'ici là, on n'est encore que mercredi, donc n'en faites pas trop. Mais s'il faut agir, faites-le pour faire le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.